Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Les journaux, les choix à la fin.
Au sommaire ce matin sur Radio Okapi, pétition pour sauver l'inspection générale de l'EPST des limitations politiques des inspecteurs, agents et enseignants membres du syndicat des administratifs et enseignants du Congo SIADEC exige la rupture du contrat entre le ministère de l'EPST et les agences privées Zion et Scolap ayant géré l'édition controversée de l'examen d'État 2023. Publication des résultats de ces enquêtes sur les carnages du 30 août à Goma, la VSV dénonce un crime de génocide et demande à la CPI de s'autosaisir si la justice congolaise n'allait pas jusqu'au bout dans la lutte contre l'impunité. Selon l'ONGDH, une centaine de personnes auraient été tuées dans ces carnages. D'abord, cette information va d'aller plus loin. Félix Tshisekedi Tshilombo, désigné investi candidat président de la République et pour le compte de l'Union sacrée de la Nation. C'était au cours du tout premier congrès de cette famille politique dont il est autorité morale. Plusieurs personnalités politiques, des responsables des partis et regroupements politiques et membres de l'Union sacrée ont pris part à ce rendez-vous tenu hier dimanche au grand chapiteau du Palais du Peuple. Sachez également que le président de la République est arrivé hier dimanche dans la soirée à Lubumbashi, accompagné de son épouse. Il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, arrivé quelques heures plus tôt dans la capitale du Cuivre. D'après une source proche de la présidence, et durant son séjour dans les Haut-Katanga, le chef de l'État mènera plusieurs activités, notamment dans les territoires des Kasenga et Sakania. À Kasenga, Félix Tshisekedi va lancer les travaux de construction de la route Kasomeno, Kasenga et Chaloué. Il est aussi prévu une rencontre entre lui et son homologue zambien Hakainde Hichilema. À Kasenga, il sera question d'inaugurer, entre autres, le port sec de Lukangaba. Mesdames, Messieurs, bonjour. Des inspecteurs, agents et enseignants membres du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, exigent la rupture du contrat entre le ministère de l'EPST et les agences privées Zion et Scolap, deux structures privées ayant géré l'édition controversée de l'examen d'État 2023. Ils les disent à travers une pétition initiée ce samedi. Ces syndicalistes ont entamé leur démarche au cours d'une rencontre avec la presse à Kinshasa. Des détails avec Blaise Ndongala.
À travers leur démarche, le pétitionnaire affirme vouloir sauver l'inspection générale de l'EPST de l'immixtion politique et obtenir sa réhabilitation dans sa mission régalienne. C'est là, après avoir constaté la débâcle dans l'organisation de l'examen d'État 2023 et a suscité indignation et consternation. Ces syndicalistes exigent également que la gestion de cette épreuve certificative soit remise à l'inspection générale de l'EPST et non aux agences privées Zion et Scolap, comme précise la présidente de SIADEC, Angèle Payanzo.
Préoccupée par les rôles déficitaires joués par le leadership du ministre de l'EPST, qui fait sous-traiter le PREV par les agences privées Zion et Scolap sans expertise à la matière, nous, membres du syndicat des administratifs et enseignants du Congo, SIADEC, exigeons la rupture du contrat au contour inconnu avec les agences privées Zion et Scolap.
Ces professionnels de la CRE disent agir en vertu de l'article 27 de la Constitution, stipulant que tout Congolais a le droit, collectivement ou individuellement, d'adresser une pétition à l'autorité. Avec cette pétition, ils se proposent également de recueillir 10 000 signatures à travers le pays.
La synergie des organisations syndicales et sociales de la RDC juge antisocial le projet du budget 2024. Le rapporteur de cette organisation, Jean Bosco Pouna, réagit ainsi après que l'Assemblée nationale a jugé recevable ce projet de loi des finances. Et selon lui, le gouvernement, à travers ce projet, ne garantit pas la sécurité sociale des agents et fonctionnaires de l'État. Comme solution, Jean Bosco Pouna a proposé que ce projet du budget soit revu en apportant plus de ressources aux secteurs sociaux des bases. Il est dit au micro de Blaise Ndongala.
Au-delà du taux de croissance de ce budget, il faut dire qu'il ne tient pas compte de la politique salariale tant souhaitée par les travailleurs et tous les agents et fonctionnaires fonctionnaires de l'État. Et donc, ce budget ne tient pas compte de la réduction du train de vie de l'État pour dégager des moyens, des économies qui puissent permettre que les agents et fonctionnaires de l'État puissent toucher un salaire qui leur permette de pouvoir vivre. Le budget revient en ce qui concerne le social des agents de l'État sur des accords déjà conclus avec l'INAP. Ce sont des accords qui octroient $130 aux huissiers et les $130 doivent être payés en 2024, ce qui n'est pas acceptable dans la mesure où les agents et fonctionnaires de l'État attendent un SMIC régulier et incitatif. Donc les agents de l'État attendent une politique salariale basée sur les principes constitutionnels de l'équité. Il revient aux députés nationaux de pouvoir rejeter ce budget parce que, à tout point de vue, c'est un budget antisocial.
Et puis, cette nouvelle, après 3 jours de fermeture, les stations-service sont à nouveau opérationnelles dans la ville de Lubumbashi depuis hier dimanche. Cette réouverture est le résultat de l'échange que les pétroliers du Haut-Katanga ont eu avec le vice-premier ministre et ministre de l'économie qui était accompagné du ministre des hydrocarbures. Les deux membres du gouvernement séjournent dans la ville de Lubumbashi depuis samedi. À cette occasion, les pétroliers ont présenté leurs principales revendications, dont les paiements du manque à gagner par le gouvernement, la crainte de la rupture des stocks et la révision à la hausse de la structure des prix. Car il faut les rappeler que le prix du baril de pétrole a aussi augmenté sur les marchés internationaux. Les deux parties ont trouvé un terrain d'entente, comme nous le relate Jean Gandou dans ses reportages.
Au sujet du paiement du manque à gagner que les pétroliers réclament au gouvernement après leur réunion avec le vice-premier ministre et ministre de l'économie dans les assurances suivantes.
Nous allons payer le manque à gagner mercredi.
Et par rapport au prix du baril de pétrole qui a augmenté sur le marché international, Vital Kamerhe apaise les pétroliers.
Il y a deux solutions. La première, c'est que l'argent tombe et qu'on va supporter la totalité de 30%. La deuxième solution, c'est de dire nous allons publier une nouvelle structure des prix des produits pétroliers. Mais en tenant compte du fait que nous devons nous rapprocher petit à petit des prix d'équilibre pour que cette histoire de perte et manque à gagner se termine définitivement.
Cette approche du gouvernement est appréciée par le président provincial de la Fédération des entreprises du Congo dans les Haut-Katanga, Patrick Mouland.
La profession pétrolière s'est dite, le peu de stock que nous avons, nous pouvons commencer à la relâcher progressivement, étant donné que nous aurions une oreille attentive et probablement des solutions. Voilà comment vous avez constaté que la situation s'est reprise anticipativement par le simple fait que le vice-premier ministre a confirmé son arrivée à Lubumbashi. Donc cela a été une réaction que nous saluons et que nous remercions du gouvernement par cette spontanéité-là.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Congo central, les chauffeurs routiers suspendent leur grève déclenchée le 18 septembre dernier. Pour 4 jours, ces chauffeurs poids lourds disent avoir été rassurés que le gouvernement va examiner leurs revendications. Cet accord a été trouvé et annoncé à l'issue d'une rencontre qui a mis autour d'une table le secrétaire général au transport, les délégués du ministère de l'économie, la délégation syndicale nationale des routiers, le maire de Matadi ainsi que les chauffeurs grévistes. C'était samedi à Matadi. Pour le maire de Matadi, l'arrivée de cette grève permettra d'approvisionner la ville de Kinshasa en produits alimentaires devenus rares et chers à la suite de cette grève. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
La suspension de ces mouvements de grève n'est que temporaire, rappellent les grévistes. Ils précisent que la levée de la grève ou sa poursuite sera décidée dans 4 jours. En attendant les résultats de l'examen de leurs revendications à Kinshasa par le gouvernement, les bancs syndicales des transporteurs et les bancs patronales. Pour les secrétaires généraux au transport et les délégués du ministère de l'économie venus de Kinshasa pour persuader les routiers à reprendre le travail, l'examen des revendications de ces derniers devient un impératif. Car cette grève de 10 jours a démontré que le travail des routiers est indispensable pour plusieurs secteurs de la vie du pays. Le maire de Matadi, impliqué depuis le début dans la recherche d'une réponse à cette grève, affirme que la suspension de cette grève constitue un soulagement notamment pour la population kinoise. Dominique Nkodiambete.
Vous avez vu, la grève a duré plus de 10 jours et déjà la rareté vient commencer à se faire sentir à Kinshasa et les prix de certains biens de première nécessité commencent à augmenter.
Rappelons que les chauffeurs poids lourds réclament notamment l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. Parmi leurs 11 revendications, 2 qui concernent la province du Congo central ont déjà trouvé solution. Matadi, Nana plus riche Mambou, Radio Okapi.
Encore sur les routes, et le prix de la course en taxi-bus est doublé brusquement sur quelques axes de la ville de Bukavu. Le président de l'association des chauffeurs du Congo, section Sud Kivu, met en garde les conducteurs qui majorent le prix d'une manière unilatérale. Le maire de la ville, lui aussi, prévient les chauffeurs qui profitent de l'opération des contrôles des documents des bords pour fixer le prix à leur gré. La course en taxi-bus est passée de 500 à 1000 francs sur certains axes. Le maire a annonce la tenue d'une rencontre avec les associations des transports urbains pour faire la lumière sur la question. Nous restons sur les routes et dans la province de l'Ituri. Plus de 500 véhicules sont bloqués entre Djina et Pimbo, deux localités du territoire des Djougou sur la route nationale numéro 27. Et pour cause, le délabrement avancé de cette route à la suite des pluies qui s'abattent régulièrement dans cette région. Du coup, plusieurs produits de première nécessité à destination des Bounia et ailleurs traînent en encore dans ces véhicules. Une situation qui préoccupe les usagers de ces taxes routiers qui demandent aux autorités provinciales et nationales de vite intervenir car cela impacte négativement sur l'économie et les sociales de la population de l'Ituri. Marc Marofimbo, reportage.
Plus de 500 véhicules, majoritairement des camions semi-remorques transportant des produits de première nécessité, ainsi que des camions citernes transportant du carburant, sont bloqués entre Djina et Pimbo. Les voitures de transport en commun et celles des privés y sont aussi bloquées, pas de passage. Ici, même les motos ont du mal à circuler, comme le témoigne Accent Zirojo, un motard du village Ndjiba. La route est vraiment délabrée. Il faut que les autorités fassent leur mieux d'intervenir pour sauver cette situation, sinon c'est catastrophique. Les usagers de cette route se posent la question de savoir où va l'argent des péages de route récoltés régulièrement et qui devrait servir à l'entretien de cette route d'importance capitale sur le plan économique de la province de l'Ituri. Aboubakar Harouni attend chauffeur de camions citernes. Ce 30 septembre, j'ai totalisé un mois cloué à cet endroit. Ils ont assez récolté d'argent qui malheureusement est bouffé sans pour autant les mettre dans l'entretien des routes. On ne sait pas si qui nous a sorcellés. Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction des responsables de la Direction générale des recettes de la province de l'Ituri de GRPI. Par ailleurs, plusieurs observateurs indiquent que la plupart des routes en province de l'Ituri sont dans un état de délabrement avancé depuis que la DGRPI a repris la gestion de maintenance de ces routes qui jadis était sous la supervision des Foner. De Bounia, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans les titres, massacre du 30 août à Goma, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme dénonce un crime de génocide et demande à la CPI de s'en auto-saisir si la justice congolaise n'allait pas jusqu'au bout de la lutte contre l'impunité. Il s'agit des graves violations des droits humains selon la VSV qui a présenté le samedi à la presse les résultats de ses enquêtes sur ces massacres des membres de la secte religieuse Wazalendo à Goma. Plus d'une centaine de personnes auraient été tuées et dont les corps ont été dissimulés simulé par les éléments des FARDC, à en croire les résultats des enquêtes menées par cette ONGDH. Jeff Ngoy.
Les FARDC ont tué et fait disparaître plusieurs corps, d'après Rostem Nketa, directeur exécutif de la VSV.
Selon les informations recueillies par la VSV, les militaires avaient mis en place une stratégie consistant à effacer les traces en ramassant les corps sans vie pour les faire disparaître. Des corps sans vie auraient été jetés dans le lac Kivu pour atteindre cet objectif.
Qu'en est-il du bilan ?
Selon plusieurs témoignages, une équipe de militaires était chargée de ramasser les corps sans vie et une autre était là pour tuer sans pitié. Pour certaines personnes, le bilan pourrait même atteindre 100 personnes tuées et pour d'autres, il pourrait être de 200.
Quelques recommandations.
Aux autorités congolaises de diligenter une enquête approfondie et indépendante pour faire la lumière sur le nombre réel de victimes de ce massacre. De tout mettre en œuvre pour que le procès en cours à Goma fasse en toute indépendance la lumière sur les circonstances pour que les auteurs répondent effectivement de leurs actes. De procéder à la réparation des préjudices subis par toutes les victimes du massacre du 30 août à la Cour pénale internationale. De suivre de près le déroulement du procès en cours à Goma.
Une liste des victimes tuées est dressée par la VSV dont l'âge varie entre 5 et 48 ans.
Au Nord Kivu, une partie de la population bénéficie d'un projet d'assistance et réhabilitation au profit des victimes des violences sexuelles et autres crimes contre l'humanité. C'est à travers un projet de 5 ans financé par les fonds des victimes de la Cour pénale internationale, mis en place en RDC et exécuté depuis 2020 au Nord Kivu par l'ONG Solidarité pour la promotion sociale et la paix. Devant plusieurs acteurs étatiques et non étatiques réunis le week-end à Goma, cette organisation a présenté les réalisations déjà atteintes, les défis et la suite du projet. Sifa Maguru.
L'ONG Soprop indique avoir déjà accompagné plus de 1200 victimes, dont 400 environ déjà réinsérés dans la vie sociale. Cette ONG dispose de 3 centres psychomédicaux pour la réhabilitation de ces victimes, des centres situés à Kichanga dans la zone de santé de Mweso, territoire de Masisi, ainsi qu'à Goma dans la zone de santé de Karisimbi. Espoir Luko, secrétaire général de Soprop, revient sur ce travail.
Ces 3 centres accueillent les victimes provenant de 3 territoires, notamment Masisi, Rutshuru et Nyiragongo, y compris les victimes qui sont dans la ville de Goma. Nous faisons la réparation physique, donc des soins médicaux gratuits.
En plus du suivi médical, ces victimes reçoivent un accompagnement psychosocial et une réinsertion socio-économique. Tous ces volets produisent de bons résultats, affirme Espoir Luko.
Et nous avons vraiment de bons résultats parce que parmi ces victimes que nous recevons, il y a ceux-là qui ont des traumatismes graves. Mais avec l'apport de ces centres, les victimes sont aidées.
Outre les activités de prévention des violences, notamment la sensibilisation de la communauté, l'ONG Soprop affirme qu'elle rencontre des défis dans les volets accompagnement juridique des victimes. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Actualité internationale.
La Turquie a mis en garde dimanche des terroristes et mené des frappes aériennes contre les PKK au Kurdistan irakien quelques heures après un attentat suicide des organisations qui a fait 2 blessés au cœur de la capitale Ankara. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel et l'Afrique de l'Ouest, Leonardo Santos Simao, est toujours actif et mobilisé sur la crise du Niger. Il prépare une nouvelle mission au Niger dans les tout prochains jours. Les diplomates mozambicains s'y rendent pour plaider pour l'acheminement de l'aide humanitaire au Niger et discuter une fois encore avec la junte sur la crise. C'est la fin de cette édition du journal supervisée par Pele Kipelamondo. Merci de l'avoir écouté.